What's up, Doc?
Vous le savez, What's Up Doc, c'est chaque semaine une pathologie qu'on essaye un petit peu de dépatouiller pour rendre cela accessible à tout le monde. Et cette semaine, on va parler de la tachycardie d'un point de vue global, mais surtout, et on va mettre un focus sur une des conséquences ou une des ramifications de la tachycardie. La fibrillation auriculaire. Et pour ce faire, nous sommes ce matin ravis. Et on l'en remercie d'accueillir Michel Abramovitch, cardiologue. Docteur Abramovitch, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment donc d'avoir accepté notre invitation aussi matinale. Alors je le disais, docteur Abramovitch, la fibrillation auriculaire, c'est bien sûr une des ramifications de la tachycardie, c'est bien ça ?
En effet, il existe beaucoup de formes d'arythmie cardiaque quand ça va trop vite, quand ça va trop lentement, quand ça vient d'une zone d'où le rythme ne devrait pas être originaire. Tachycardie ou tachycardie, on peut dire le terme des deux manières, signifie un rythme cardiaque anormalement élevé par rapport aux besoins. Si vous avez une fréquence cardiaque élevée mais que vous faites un effort intense, c'est normal. Si par contre vous êtes au repos et que votre fréquence cardiaque est par exemple de 160 à la minute, ça n'est pas normal. Une forme de tachycardie importante et qui est à l'heure actuelle dans nos pays la plus fréquente tachycardie soutenue, c'est-à-dire qui ne dure pas quelques secondes ou quelques minutes, mais qui peut durer des heures, des jours, voire même être permanente, est la fibrillation auriculaire.
Bien.
Elle est caractérisée, oui.
Je vais vous laisser la définir plus amplement, mais cette fibrillation auriculaire, elle concerne beaucoup de gens. Faut pas être à la louche, hein, je vais dire. Et dans la sous-question, c'est est-ce que c'est plutôt homme que femme et est-ce qu'il y a une tranche d'âge plus touchée que d'autres ?
Alors, c'est un tout petit peu plus homme que femme, mais à peine. Mais surtout, c'est étroitement lié à l'âge. C'est-à-dire que la forme la plus fréquente de fibrillation auriculaire est liée à l'usure du tissu d'automatisme et de conduction du cœur, ce tissu qui fournit le pacemaker naturel du cœur, qui nous donne notre rythme de façon normale, et ce tissu aussi qui conduit l'influx rythmique cardiaque dans les différentes parties de l'organe, de sorte qu'il y ait une coordination de la contraction. Cette usure cardiaque spécifique qui donne lieu à la fibrillation auriculaire se passe à un âge variable, parce que nous sommes tous différents, mais elle est d'autant plus fréquente qu'on avance en âge. Vous la trouverez rarement à 30 ans, vous l'observerez très souvent à 80 ans. Donc c'est étroitement lié à l'âge.
Donc quand vous dites que ça concerne plus de femmes que d'hommes, c'est probablement aussi dû au fait que les femmes vivent statistiquement plus longtemps que les hommes, si je l'entends bien.
Ça peut certainement être ça, mais je dirais que c'est un facteur mineur. S'il faut retenir une chose, c'est que au plus on avance en âge, au plus on risque d'avoir une fibrillation auriculaire. Il y a en gros deux sortes de fibrillation auriculaire, la forme minoritaire qui est secondaire à une autre maladie cardiaque comme par exemple un infarctus myocardique, une autre cause d'affaiblissement du muscle, une maladie valvulaire, situations qui vont augmenter la pression au sein des oreillettes et favoriser la fibrillation auriculaire qui, comme son nom l'indique, naît dans les oreillettes. Mais la forme la plus fréquente n'est pas associée à une autre maladie cardiaque, survient en elle-même toute seule, donc c'est, comme je le disais, une détérioration du tissu spécialisé dans le rythme et la conduction qui amène à non pas l'activité normale, régulière du pacemaker naturel du cœur, mais une activité anarchique, totalement irrégulière et imprévisible, avec souvent une fréquence cardiaque supérieure à la norme, mais surtout une totale irrégularité dans les battements.
Bien. Alors, une question très directe en même temps, et sans vouloir être anxiogène, est-ce létal ?
Potentiellement, oui. La fibrillation auriculaire a plusieurs inconvénients potentiels. Ça peut donner des symptômes qui sont typiquement des palpitations, la sensation anormale de percevoir son cœur battre. Ça peut donner de l'insuffisance cardiaque, donc faire en sorte que le cœur ne parvient pas à subvenir aux besoins de l'organisme. Et les manifestations de l'insuffisance cardiaque sont, pour leur principale, la fatigue, l'essoufflement et les gonflements, typiquement des mollets et des pieds. Donc, palpitations d'une part, insuffisante cardiaque d'autre part, mais surtout là où la fibrillation auriculaire est la plus dangereuse, c'est qu'elle est associée au fait qu'il n'y a pas d'activité mécanique des oreillettes. Les pompes principales du cœur sont les deux ventricules, gauche et droit. Les oreillettes sont des pompes cardiaques accessoires. Mmh. Mais dans la fibrillation auriculaire, ces pompes cardiaques accessoires ne fonctionnent pas du tout. Elles ne sont plus accessoires, elles sont nulles. Et dans la mesure où ces oreillettes n'ont plus d'activité mécanique, il peut se former en leur sein des caillots qui peuvent ensuite être libérés, migrer dans la circulation et aller où bon leur semble, mais où bon ne nous semble pas du tout, et causer par exemple un accident vasculaire, ouais. Un accident vasculaire cérébral, un infarctus rénal, une gangrène du petit orteil, bref, toutes choses dont on n'a pas envie.
D'accord. Et donc, je répète, le but dans cette chronique n'est jamais d'être anxiogène. Donc, c'est pas. Est-ce que vous rassurez-nous ? Est-ce que dès qu'on a des palpitations ou un des symptômes que vous venez de décrire, il faut vite courir aller voir un cardiologue ? Ou bien on peut quand même attendre un petit peu et prendre cela avec, entre guillemets, bien sûr vigilance, mais aussi et surtout un petit peu de recul, on va dire.
Je dirais que si on a une suspicion de fibrillation auriculaire, et j'avoue que avoir une suspicion de fibrillation auriculaire n'est pas nécessairement facile pour le profane, mais si vous développez des palpitations irrégulières, donc votre rythme vous paraît irrégulier, et que ces palpitations surviennent non pas une fois pendant quelques secondes, mais plusieurs fois pendant quelques heures, vous pouvez suspecter cette situation, surtout si vous avez plus de 50 ans, même que vous ne vous connaissez pas de maladie cardiaque, et si l'arythmie est confirmée, il y a une parade qui est le traitement anticoagulant.
Alors et justement, ce sera
qui concerne la complication la plus redoutée, parce que les palpitations s'ennuient, on peut les traiter assez facilement, l'insuffisance cardiaque, on connaît bien, il y a plein de traitements, l'accident vasculaire cérébral, ça peut parfois laisser des séquelles irréversibles, donc il vaut mieux ne pas traîner avant de diagnostiquer la fibrillation auriculaire et de prescrire un traitement anticoagulant qui ramène à peu près à zéro le risque d'embolie et donc d'AVC.
D'accord, ben ça c'est plutôt optimiste, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ma dernière question, et elle sera double si vous voulez bien, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Alors, première question, y a-t-il un moyen de prévenir ces fibrillations auriculaires ? Existe-t-il un dépistage ? Et ensuite, si oui, quel traitement existe pour terminer cette chronique, docteur Abramovitch ?
Alors, prévention et dépistage ne sont pas synonymes. Prévention, oui, puisque certains comportements favorisent la fibrillation auriculaire, comme la prise d'alcool, mais pas chez tout le monde. Chez certains, la prise de boissons alcoolisées va favoriser la fibrillation auriculaire. L'excès de poids est une cause de fibrillation auriculaire. Mais il faut bien dire que ce sont des éléments mineurs et que le principal, c'est est-ce que votre cœur, par malchance, a envie de devenir pourvoyeur de fibrillation ou pas, c'est surtout ça. Quant au dépistage, il peut se faire via un examen cardiologique qui est de toute façon conseillé selon les tranches à risque, soit une fois par an, soit une fois par deux ans, soit une fois par cinq ans, et qui peut dépister ces fibrillations.
D'accord. Et dans l'hypothèse, et on terminera par là, où la fibrillation auriculaire est diagnostiquée, quel traitement à partir de là ? Est-ce que ce sont des traitements lourds ? Je veux dire par là, il faut s'astreindre à un certain régime, il faut aussi prendre une panoplie de médicaments, ou bien il y a un système qui permet de guérir, entre guillemets, ces fibrillations auriculaires, et puis on peut en être quitte pendant des années.
Alors, en termes de comportement, si on a un excès de poids, on peut avoir un espoir en perdant du poids, mais nous savons combien il est peu facile de perdre du poids et donc c'est anecdotique. Même chose pour la consommation alcoolisée, on peut diminuer la tendance à la fibrillation auriculaire. Il existe une panoplie de médicaments qui peuvent diminuer la tendance à la fibrillation auriculaire, mais qui ne vont jamais nous donner du 100% de suppression de la fibrillation, de sorte que l'anticoagulation reste quand même nécessaire. Et enfin, il existe une intervention chirurgicale qui maintenant ne nécessite plus l'ouverture du thorax, mais peut se faire en passant à l'intérieur des veines, et donc ça implique une lourdeur nettement moindre de la procédure. Il faut que l'indication soit bonne pour toutes sortes de raisons
qui
passent largement le cadre d'aujourd'hui. Si l'indication est bonne, le taux de succès est d'environ 75%. C'est pas mal, c'est pas 100%, et donc il faut pas faire croire au patient qu'il va faire la procédure et qu'il n'aura plus jamais de fibrillation. Ça n'est pas comme ça. C'est souvent utile, ça supprime souvent la fibrillation, mais pas toujours.
Bien, bah écoutez, docteur Abramovic, merci infiniment d'avoir prêté votre concours à ce What's Up Doc. On y voit un petit peu plus clair. Je rappelle à nos auditeurs qui nous auraient pris en cours qu'on parlait de la fibrillation auriculaire et que pour ceux que ça intéresse, ils pourront retrouver bien sûr notre entretien sur le site internet dans le podcast dès la mi-journée. Je vous souhaite une belle journée, docteur. Prenez bien soin de vous parce que soin des autres, vous le faites au quotidien. Et à très vite sur cette antenne parce que c'est vrai que la cardiologie, c'est très très large et on a plein de sujets à évoquer ensemble. Si tant est que vous soyez disponible. Bien sûr.
Ce sera avec plaisir.
Merci beaucoup. Portez-vous bien.